arrivé chez Artima le 2 novembre 1960.
Bonjour, je m'appelle Xavier Fournier et soyez les bienvenus dans le 14e épisode d'Aventure Fiction. Ceux d'entre vous qui connaissent déjà ce podcast savent que je tente de vous parler des comics en utilisant des angles un peu différents et en tentant de sortir des sentiers battus. Et c'est pareil pour les invités qui veulent bien me faire l'amitié parfois de venir participer à ce programme. Aujourd'hui cependant, la formule est un peu particulière puisque nous accueillons quelqu'un qui a commencé à travailler en lien avec les comics il y a 62 ans. Yves Catloin était l'ancien rédacteur en chef d'Arédia Artima. Pendant des décennies, cette maison d'édition a beaucoup compté dans l'importation et dans la transposition française de comic book américains. Tandis que les éditions Lug, avec des magazines comme Fantasque ou Strange, géraient des personnages comme Spider-Man ou les 4 Fantastiques, c'est via Arédia Artima que des super-héros tels que Flash, Green Lantern, mais aussi Captain America, Hulk ou les Avengers ont fait leur premier pas en France. Arédia Artima a également été pendant des années la maison d'édition qui traduisait en France les comics de Conan le Barbare. Le tout formait donc globalement un imposant catalogue. Rédacteur en chef d'Arédia Artima, Yves Catloin occupait une place similaire à celle des responsables actuels de Panini, Comics, Urban ou encore Delcourt. C'était un peu le Thierry Mornay de l'époque. C'est donc un témoignage rare sur l'édition des comics dans les années 60 à 80. Néanmoins, M. Catloin, que je remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de se prêter à l'exercice, a quitté l'édition vers la fin des années 80, comme il vous le dira lui-même. Tout cela, c'est donc loin pour lui, et vous n'aurez pas forcément le détail de pourquoi telle revue avait des dos de couleurs différentes les unes des autres. Vous ne saurez pas non plus pourquoi les Défenseurs ou les Éternels étaient dispatchés dans telle anthologie plutôt qu'une autre. Donc, plutôt qu'un simple jeu de questions-réponses, je vais m'efforcer de recontextualiser les choses et d'apporter des précisions quand c'est nécessaire, en laissant parler Yves Catloin des éléments dont il se souvient. C'est-à-dire qu'il ne va pas spécialement nous parler du contenu des BD ou du détail des comics, ça c'est plutôt mon job, mais bien témoigner de l'ambiance qui régnait dans les murs d'Artima et donner des éclairages sur quelques choix. Cela reste une occasion pratiquement unique d'entendre la voix d'Artima et l'éditeur décrit par quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur pendant plus d'un quart de siècle. Mais avant d'écouter Yves Catloin, les habitués parmi vous savent aussi qu'on va d'abord avoir un passage imposé et que je vais vous rappeler que le podcast Aventure Fiction fonctionne exclusivement via vos pourboires, en particulier via une page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description du présent épisode. Que vous pouvez aussi liker, partager, faire tourner le lien de cet épisode ou des précédents, et que si vous débordez d'énergie, vous pouvez aussi vous fendre d'une notation sur les principales plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi poster le lien d'Aventure Fiction sur les forums ou les espaces sociaux que vous fréquentez. Bref, toute publicité est bonne à prendre et je vous remercie d'avance. Et maintenant, je vous propose de remonter plus de 60 ans d'arrière à une époque où éditer des comics en France ne coulait pas de source. Si vous lisez de nos jours des comics traduits en français, vous êtes très probablement habitué aux publications de Panini Comics, qui publie essentiellement le catalogue Marvel, ou bien à celle d'Urban Comics, dont la référence majeure est l'univers DC. Et puis, même si ces deux-là importent aussi quelques titres indés, vous avez Delcourt qui s'occupe de séries essentiellement indépendantes comme Walking Dead ou Spawn. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres éditeurs qui traitent du matériel américain, comme Macileos, Bliss, Delirium, iComics, Reflection et beaucoup d'autres. Mais on va dire qu'une fois qu'on a cité les trois piliers que sont Panini, Urban et Delcourt, on a fait le tour de 90% de la traduction de comics en France. Essentiellement, pratiquement, tout ce qui est adapté au marché français est disponible en librairie. On va faire un grand bond en arrière et se retrouver dans l'après-guerre, au moment où les éditeurs peuvent à nouveau importer librement et traduire du matériel américain. Ce qui restait possible pendant l'occupation, mais c'était autrement compliqué. À l'époque, le Panini et le Urban de l'époque, ce sont diverses sociétés telles que Del Duca qui traduit les aventures de Tarzan, Superman et Batman, et puis la société Sage, plus tard rebaptisée Sage Édition, qui publie essentiellement Captain Marvel, qui est la superstar des traductions de la fin des années 40. Alors, Captain Marvel, entendons-nous bien, rien à voir avec Carol Danvers ou même Marvel Comics. Captain Marvel, c'était le nom d'origine du héros qu'on connaît de nos jours sous le nom de Shazam. Et Captain Marvel était à la base un personnage de l'éditeur américain Fawcett. Alors, il y a bien entendu d'autres éditeurs VF qui publient des comics dans une moindre mesure, mais Del Duca et Sage sont les plus notables. Il serait donc tentant de penser que Del Duca, à la fin des années 40, est donc le licencié en France de DC Comics. Mais à l'époque, ça ne marche pas vraiment comme cela. On ne raisonne pas en termes de catalogue global, ou si vous préférez, pas en termes d'univers partagé. Je vous l'avais expliqué dans le double épisode sur le voyage dans le temps, même chez les Américains, la notion d'univers partagé n'est apparue qu'à la longue. Et du côté des Français, on n'était pas spécialement intéressé par l'idée d'emporter tout ce que proposait un éditeur américain. Del Duca et la Sage traduisaient Captain Marvel, Superman et dans une moindre mesure Batman, en gros trois têtes d'affiche du marché américain. Mais ils n'étaient pas spécialement intéressés par le principe d'importer Flash ou Green Lantern, d'autant que dans l'après-guerre, les ventes américaines des super-héros s'étaient effondrées. Je vous le précise au passage, Green Lantern a eu quelques traductions françaises à l'époque, mais il n'y avait vraiment rien de régulier. Il n'y a pas, à l'époque, quelqu'un qui publie en France une grosse partie du catalogue DC ou des Marvel Comics. Tout ça a été publié en kiosque sous forme de fascicules hebdomadaires ou mensuels sur quelque chose qui ressemble beaucoup à du papier journal. Mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est Artima. Loin des Parisiens que sont Del Duca et La Sage, c'est une petite société installée à Tourcoing dans le Nord. Elle est dirigée par un certain Émile Kerbic et va prendre une importance insoupçonnée en matière de comics. Yves Cattelouin, né en 1943, n'a pas connu la fondation d'Artima, mais par la force des choses, il a bien connu son fondateur, avec qui il allait travailler pendant plusieurs décennies. Et à la base, tout commence par une histoire de calendrier. Et je cède donc ici la parole à Yves Cattelouin.
Alors, M. Kerbic, bon, d'abord, il faut savoir que M. Kerbic, à 14 ans, il est entré comme commis dans une imprimerie, Oberthur, pour vous dire. Il était là, c'est lui qui nous l'a dit, hein. Il devait aller chercher les sandwichs pour les chefs de service, pas tout. Et puis la première année, à la fin de sa première année de travail, il a vu entrer les retours d'invendus des calendriers. Il est allé voir son responsable, il a dit mais pourquoi les invendus, on les pilote au lieu de les vendre en solde. On s'est foutu de sa gueule, ils en vendent en solde en janvier des calendriers, c'est impensable. Ben, il a insisté, alors on lui a dit ben écoute, l'année prochaine, si tu veux, tu peux les vendre. Et puis tu seras commissionné. L'année suivante, il a fait ça, et il en a vendu tellement, qu'il est donc devenu commercial de la société. Et pendant quelques années, il a bien fait sa petite cagnotte, et il a imprimé ses propres calendriers. Et donc, quand il a fait ça, quand il allait voir les clients, avant de proposer les calendriers d'Oberthur, il proposait les siens, légèrement moins chers, donc il les a tous vendus. Et il a créé une maison d'édition qui, pendant les 2-3 premières années, ne faisait que des calendriers. Puis il a fait des espèces de cahiers dans lesquels on reprenait les contes de Grimm, les contes de Perrault, donc il n'y avait pas de droit à payer pour les textes, et il y avait un dessin par page. Et ensuite, à la suite de ça, il a commencé à faire ce qu'on appelait les formes Artima, avec Météore, Tarou, Dynamique, Madas, etc.
Ainsi donc, Artima a commencé dans les années 40 comme une société d'édition de calendriers et de livres illustrés, avant d'opter plus spécialement pour la bande dessinée. Dans les années 50, l'éditeur ajoute à son catalogue l'édition de comics traduits, provenant pour la plupart de chez DC Comics. Donc voilà Artima, installé depuis quelques années déjà, et qui a commencé à importer en France du matériel de DC Comics, entre autres choses. L'un des premiers titres à accueillir des séries DC, c'est l'anthologie Aventure Fiction en 1958, et vous savez donc d'où ce podcast tient son nom. Alors à l'époque, le genre super-héroïque redémarre tout juste aux USA, et donc dans un premier temps, Artima va plutôt traduire des séries de science-fiction telles que Strange Adventures. L'envie de tâter un peu du super-héros se matérialise cependant assez vite, puisqu'en février 1960, Artima démarre une anthologie intitulée Batman, en deux mots. Et il semble donc que l'éditeur avait des vues sur le jeu DC de Gotham City, mais se soit ravisé. Le titre Batman d'Artima durera une dizaine de numéros et ne contiendra jamais la moindre aventure du héros Batman. Mais c'est la même année, en 1960, qu'Yves Cattelouin entre dans la société pratiquement par hasard.
J'ai eu la typhoïde à 16 ans, et donc de 16 ans à 17 ans, je suis resté chez moi. j'ai pas eu le courage de reprendre mes études et je suis entré dans une maison de filature où je suis resté 9 mois. Comme je dessinais depuis mon tout jeune âge, j'avais fait une bande dessinée. Bon, quand je la revois maintenant, j'ai un peu honte, mais... Et je suis allé la montrer chez Artima, parce que j'habitais Tourcoing, car Artima, c'était à Tourcoing. J'ai été reçu par l'ancien coiffeur du patron, Jean Carlet, qui était devenu sous-contremaître de l'atelier, et qui a transmis ce que j'avais fait à M. Kersbill, que le patron. Et j'ai été amené à faire des essais. Monsieur Hélin, le chef dessinateur de l'époque, m'a fait faire ses essais et on a trouvé que c'était bien et j'ai été accepté pour l'embauche. Je suis arrivé chez Artima le 2 novembre 1960. À l'époque, on faisait beaucoup, enfin Artima achetait beaucoup de bandes dessinées à un éditeur espagnol qui s'appelait Torre, à Barcelone. Mais c'était des planches à l'italienne, au format à l'italienne. Donc il fallait les remonter au format dit Artima ou Digest. Et quand on les remontait, les dessins sur les côtés ou un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, il y avait du blanc qu'il fallait compléter. Donc mes premiers travaux chez Artima, ça a été d'être des dessinateurs de compléments. À l'époque d'Artima, dont il n'y avait pas une centaine d'employés, attendez, il devait y avoir, il y avait 5 personnes à l'atelier de dessin, il y avait 2 personnes à ce qu'on appelait service vari, c'est-à-dire où on tapait les textes au début et des cartouches. Donc il y avait 5 et 2, 7. Dans les bureaux, il devait y avoir 10-12 personnes, tout cassé. Et dans l'atelier, il y avait une quinzaine de personnes. Je suis entré en tout cas. Il y avait 2 rédacteurs à l'époque qui traduisaient. Par la suite, ma femme en a fait partie. Elle est entrée le 2 janvier 1962.
On utilise depuis le début de ce podcast le nom historique de l'éditeur, c'est-à-dire Artima, la compression d'art et image, ou artisan et image selon les explications. Mais dans les années 60, ce nom d'Artima passe au deuxième plan, remplacé par la marque Haredi.
Alors moi je suis rentré d'abord chez Artima, qui était donc une SARL. Et il y avait, je pense, 2 ans que j'étais là quand les presses de la cité se sont rapprochées d'Artima. Et M. Kersbill, le patron d'Artima, était d'accord pour entrer dans le groupe des presses de la cité. Donc Artima a continué d'exister en tant qu'SARL, mais surtout pour des recueils et des choses comme ça. Et par contre, toutes les nouveautés sont passées dans ce qui s'est appelé les publications Haredi, groupe des presses de la cité.
Le super héros phare d'Haredi dans les années 60 va être Barry Allen, alias Flash, le héros le plus rapide des comics. Et là, on est plusieurs années avant que le concurrent direct, Marvel, arrive en France. Seulement à cette époque, les illustrés pour la jeunesse sont sous étroite surveillance. Et la commission qui s'occupe de surveiller tout ça épingle ses revues avec des repères pour le moins conservateurs, qui tiennent parfois même du caprice incohérent. Par exemple, les gens de la commission estiment qu'un vrai héros ne doit pas se cacher ou chercher à cacher son visage, que c'est l'apanage des malfaiteurs et des couards, et que des personnages masqués donnent donc le mauvais exemple. Ainsi donc, dans plusieurs épisodes, la cagoule de Flash sera systématiquement retouchée, aussi bien sur les couvertures que sur les pages intérieures. L'objectif est de retirer le masque, laissant à découvert le visage de Barry. Le seul hic, c'est que plusieurs épisodes reposent justement sur le fait que le héros veut cacher à sa fiancée, Iris, qu'il est secrètement Flash. Dès lors, les scènes où Iris croise un Flash avec le visage désormais démasqué n'ont plus aucun sens. Parfois, Iris se tient devant Flash et se demande à voix haute ce qu'il advient de Barry, alors qu'il est en face d'elle, avec son visage en évidence. À la rédaction d'Arendi, bien sûr, on est conscient du non-sens, mais on est bien obligé de faire avec.
Ah, les retouches américaines, c'est pareil que pour les planches de chez Touré. Bon, les bandes américaines étaient sur un format parfois un peu plus grand que ce qu'on voulait utiliser, surtout quand on faisait paraître ça dans des digests comme Surboom, Foxy, BBZ, etc. Et donc, c'est pareil, on recevait de ces comics des promures en noir et blanc des pages, on les découpait, on les remontait et on complétait sur les côtés.
Pour faire une publication petit format telle que Flash, il faut souvent décortiquer les pages des comics originaux et réorganiser les cases de manière à occuper une page et demie, parfois même deux pages, dans la revue française. Qui plus est, quand on publie en noir et blanc des pages qui ont été pensées pour la couleur, ou qu'il faut parfois redessiner des bouts de pages pour meubler l'espace, sans parler des masques à effacer et autres subtilités imposées par la commission, les cadences sont souvent infernales. Et on salue au passage le chien de notre invité pour sa contribution en Guest Star.
Que ce soit Torrey ou DC Comics, on devait faire 10 à 15 pages selon la capacité des dessins. Évidemment, il fallait savoir poursuivre le style de chaque dessinateur. Il y avait ce qu'on appelait la commission de contrôle qui était dirigée par un haut magistrat qui se tenait à Paris et qui vérifiait toutes les publications françaises. Il n'y avait pas de censure dans ce sens qu'on avait le droit de publier ce qu'on voulait. Mais une fois que c'était publié et que ça avait paru, si ça plaisait pas à la commission de contrôle, il fallait retirer la publication du commun. On nous demandait d'éviter les dessins trop noirs dans les publications en noir et blanc. Et d'éviter, vous savez, dans les westerns, par exemple, quand il y a quelqu'un qui tire au pistolet ou à la carabine, il y avait un trait qui figurait le... C'est de la balle, il fallait le supprimer. Il fallait pas non plus qu'on voit deux morts dans les dessins. Il fallait éviter tout ce qui était censé traumatiser les enfants. Et c'était des recommandations de la commission de contrôle qui n'allait, comme je vous l'ai dit, qui n'allait pas nous empêcher de publier, mais qui aurait pu empêcher la vente. Voilà, c'est ça. C'était encore un truc à la française.
Les pressions de la commission de surveillance auront d'autres effets cocasses. Par exemple, bien qu'Arredi Artima ne publie pas directement les aventures de Superman à l'époque, l'éditeur récupère les droits de la série de Lois Lane, la copine de Superman. Série où le dit Superman fait donc de fréquentes apparitions. Seul problème, la commission n'aime pas Superman. Et elle trouve là aussi qu'il donne le mauvais exemple, en passant par la fenêtre, pour faire mine de voler. Mon Dieu, et si les enfants l'imitaient ? Alors brièvement, Arredi Artima va se sentir obligé de redessiner un autre personnage à la place du héros, un Superman modifié, auquel on retire la cape pour mieux lui coller des réacteurs dans le dos, histoire qu'il soit inimitable. Et ce pseudo-Superman, inventé pour l'occasion, est baptisé Atomique.
Oui, d'ailleurs, par la suite, quand je suis devenu rédacteur en chef, je suis allé avec M. Carville dans cette fameuse commission de contrôle... Vous savez, à l'époque, c'est un peu risible par rapport à ce qu'on peut voir maintenant à la télé ou n'importe où, mais si on hésitait quelque chose avec Superman, il fallait supprimer sa cape, par exemple, parce que ça pouvait donner des mauvaises idées aux enfants. Pour les bandes dessinées pour filles qu'on recevait de chez Torrey, les filles étaient, c'était pour les filles de 10 à 12, 13 ans. Les filles dessinées par les Espagnols avaient des robes ou des jupes, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais un peu en trapèze dans le bas, qui s'arrêtaient un peu au-dessus du genou. Nous, on devait les baisser pour les faire en dessous du genou. Elles avaient des décolletés ronds, tout blancs. Il n'y avait pas de trait vertical, de quoi que ce soit, c'était tout blanc. Nous, il fallait qu'on remonte jusqu'au cou. C'est vous dire que les choses ont bien changé.
Nous sommes toujours dans les années 60 et Marvel n'est toujours pas arrivé en France. Mais pourtant, Arredi Artima va déclencher la colère de la commission de surveillance en apportant un autre super-héros de DC Comics, le Spectre. Et tout comme Flash, Spectre donne d'abord son nom à une nouvelle revue française en petit format. Comme son nom l'indique, le Spectre est un héros fantomatique. Et ça, la commission n'aime pas du tout. Elle se déchaîne et fait pression contre l'éditeur. Au même titre que la revue Tonnerre, ou quelques mois plus tard le mensuel Fantasque, chez Lug, la revue Spectre d'Arredi reste dans les mémoires comme l'un des premiers titres super-héroïques victimes de la censure. En fait, l'illustré va s'arrêter pour une toute autre raison, faute de combattants.
C'était uniquement une question de vente. Là, il y avait surtout une série qui venait de DC Comics, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais le personnage n'a duré que 5 ou 6 publications chez les Américains. Donc après, on s'est trouvé un peu à court et puis on avait abandonné.
Et puis parfois, le contenu espagnol réserve lui aussi quelques surprises désagréables à l'équipe éditoriale d'Arredi Artima.
On a eu un gros problème à un moment donné avec une publication qui s'appelait Real Cotton. On en a parlé sur Europe 1, M. Kernby qui avait été réveillé à 6h du matin par Europe 1, parce qu'on avait fait paraître une histoire qui provenait des éditions Torrey, qu'on avait réaménagée, dans laquelle, ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il y avait des Allemands contre les Russes, et le scénario était plutôt côté allemand. Donc c'est un peu plus putain grave, on nous a traité de nazis, etc. Et pendant un long moment, on a arrêté les Alcotans.
Alors, on vous l'a expliqué plus tôt, Yves Catelouin est d'abord entré chez Artima en 1960, mais au fil des années, il va monter dans la hiérarchie de la maison d'édition pour finalement en devenir le rédacteur en chef, soit le responsable éditorial si vous préférez.
Alors, le dessinateur, d'abord, au bout de 2 ans, M. Kerswick m'a demandé d'aller à la photogravure. Il m'a dit, vous savez faire des photos ? Ouais, mais avec un petit appareil. Oh, c'est pareil, l'appareil est plus grand, mais c'est pareil. Donc je me suis retrouvé pendant 1 an à la photogravure, à faire des films qu'on envoyait aux imprimeurs. Et puis au bout d'un an, je suis revenu dans le service dessin. J'ai remplacé un certain temps le chef dessinateur qui était décédé. Et puis j'étais remplacé par un autre et j'ai décidé de partir parce que je trouvais que je gagnais pas assez. Donc, je suis parti 4 mois pour le film avec technico-commercial. Dans une entreprise de fleurs. Et M. Kerswick a demandé à ma femme, qui elle était restée, qui était rédactrice, m'a demandé si j'accepterais de revenir en tant que rédacteur, parce qu'il il avait du mal à en recruter. Et il avait lu des scénarios et un roman que j'avais fait. Donc je suis revenu en tant que rédacteur. Par la suite, on a déménagé, la société a déménagé de la rue du Chaucon au boulevard Gambetta, toujours à Tourcoing. En 72, je pense, j'étais pas encore rédacteur en chef, mais j'étais plus ou moins responsable de la rédaction, mais on était que 3. Il y avait ma femme, un monsieur qui s'appelait Monsieur Giloto et moi. Puis par la suite, comme on a également commencé à acheter des droits chez Marvel, ça devenait trop important, on a embauché des traducteurs, des rédacteurs, etc. Un certain temps, dans la rédaction, on était 9.
Donc Marvel, le mot est lancé, car oui, à la jonction des années 60 et 70, l'éditeur américain qui produit Spider-Man et les X-Men, entre autres, s'est implanté en France. Mais il a d'abord été refusé par différentes maisons d'édition françaises. Vous pensez bien que si la commission de surveillance tique sur la cape de Superman, ou sur le masque de Flash, ce n'est pas franchement le moment pour importer encore plus de super-héros américains. Donc plusieurs éditeurs parisiens refusent le catalogue Marvel, purement et simplement. L'agent chargé du dossier tente alors des éditeurs plus petits, situés en province. Et finalement, le premier à réagir, c'est l'éditeur Lug à Lyon. Faute de pouvoir importer et traduire toutes les séries Marvel disponibles, les équipes de Lug font un choix qui s'explique si on prend en compte les réserves de la fameuse commission de surveillance. Cette dernière n'aime pas les héros trop politisés, trop effrayants ou surnaturels. Lug s'empare donc de héros qui repose sur une forme de pseudo-science comme Iron Man, les Fantastiques, Spider-Man ou même le Surfeur d'Argent. Et elle laisse de côté les personnages politisés tels que Captain America, le monstrueux Hulk, les surnaturels Thor ou encore Doctor Strange. Et par conséquent, Lug ne verra pas non plus l'utilité de signer les Avengers puisqu'une partie des personnages n'apparaissent pas dans les séries qu'elle a choisies. Aridi Artima signe quelques temps plus tard à peine pour le reste du catalogue Marvel. Et c'est donc cette hiérarchie des choix qui fera que des héros tels que Captain America, les Avengers et les autres vont arriver en France non pas chez Lug, mais via Aridi Artima, qui restera leur éditeur pendant des années.
C'était pas vraiment l'entente cordiale, parce que Lug avait réussi à avoir Spider-Man, par exemple, ce qu'il voulait, mais bon, Lug est arrivé avant lui. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, pour éviter que Lug en prenne trop, on avait ordre de commander tout ce qui arrivait de chez Marvel. Mais bon, Lug était resté propriétaire pour la France de Spider-Man. Et puis, on avait Conan le Barbare, etc.
Une autre différence philosophique entre Lug et Aridi, c'est l'accueil réservé aux séries du dessinateur ou scénariste parfois, Jack Kirby. Parce qu'à l'époque, chez les deux éditeurs français, le matériel Marvel et DC était publié de façon dispersée, disons télescopée, quand on comparait les différents titres. Il y avait des années d'écart entre le contenu des Fantastiques et celui de Spider-Man ou de Surfeur d'Argent. Si bien que le contenu de Kirby, associé plutôt au début des années 60 aux USA, était considéré comme dépassé par rapport à des pages plus récentes produites par John Buscema ou Neil Adams. Claude Vistel, la directrice de Lug, ne s'est jamais vraiment caché de préférer John Buscema. Chez Arrédi Artima, c'est une autre paire de manches, puisqu'on pratiquait Kirby depuis la fin des années 50. On l'avait publié dans Aventure Fiction. D'ailleurs, ces séries d'ici, telles que les New Gods ou Mister Miracle, dans les années 70, ont donc fait surface à nouveau dans la même revue, Aventure Fiction. Et puis, à mesure que Lug refaisait ou abandonnait du matériel de Kirby, eh bien, celui-ci se retrouvait par défaut, on va dire, chez Arrédi Artima. Les Éternels, jugés trop effrayants à l'époque par Lug, sont donc finalement arrivés dans Étrange Aventure, revue où on en trouvera aussi le Devil Dinosaur du même Jack Kirby. Et le dérivé de 2001 Odyssée de l'espace, toujours par le même Kirby, refera surface dans les pages de la revue Frankenstein. Mais comme Yves Catelouin vient de nous l'expliquer, passé un moment, Arrédi signait tout ce qui y arrivait de chez Marvel. On pourrait donc considérer que la présence de Kirby n'est jamais que statistique ou mathématique dans les pages d'Arrédi. Ce qui est le plus parlant, c'est le choix stratégique fait vers 1979, au moment de lancer la collection Artima Supercolor, qui voyait l'éditeur renouer avec un contenu en couleur et dans un format de taille similaire à celui de Strange et des éditions Lug. Clairement, il s'agissait d'aller sur le terrain de la concurrence. La gamme Artima Supercolor contenait initialement 4 titres parallèles, à savoir Captain America, Gamma, la bombe qui a créé Hulk, Thor, le fils d'Odin, et enfin Année Zéro, Kamandi. C'est-à-dire 3 revues Marvel et une de DC qui avaient toutes en commun une chose, avoir Jack Kirby dans leur page intérieure. L'éditeur a choisi à chaque fois des moments où Kirby s'occupait de Thor, de Hulk, de Captain America et de Kamandi. En ce sens, la préférence stratégique semble manifeste.
Alors, pour tout ce qui était nouveau, moi je recevais chaque mois 12 à 15 publications Marvel et autant de chez DC Comics et quelques histoires d'une maison écossaise qui s'appelait Thompson ou de la maison espagnole Torre. Il fallait que je jette un œil sur tout ça pour voir ce qui pouvait nous intéresser. Ce qui nous intéressait, on le commandait. Et une fois que le contrat était signé, on avait un stock et je devais, selon le nombre de titres qu'on avait, créer la publication sur la base des histoires qu'on avait en stock. Et pour ce qui était des rééditions, c'était pour gagner un peu plus d'argent, si vous voulez, dans ce sens que les rééditions, on avait déjà les dessins, les scénarios, etc. Donc il n'y avait plus que les prix d'impression à payer.
Comme Arrédi Artima publiait des titres de comics, mais aussi non-comics, comme on y trouvait des histoires de super-héros, mais aussi des récits de guerre ou de science-fiction, se pose la question de savoir quel collaborateur d'Arrédi Artima travaillait sur quel titre.
Non, c'était le directeur technique qui avait distribué des titres pour chaque dessinateur. D'accord. Chaque dessinateur avait sa série de titres dont il fallait s'occuper. Et quels que soient les goûts du dessinateur. Moi, j'aimais bien particulièrement une série qui s'appelait Tim Lodas, qui était faite par un dessinateur scénariste qui s'appelait, il faisait tout, qui s'appelait De Coudin, qui à l'origine était un architecte parisien, et j'adorais ses dessins. Donc, c'est des histoires un peu policières. Pour les Américains, moi j'aimais bien Foxy, BBZ, etc. Tous les sur Boom, tout ce qui était des dessins de style humoristique.
Mais en fait, la fameuse collection Artima Supercolor dont je viens de vous parler était la deuxième tentative d'Arrédi dans le domaine du format comic book en couleur. Quelques années plus tôt, elle avait déjà fait un premier essai avec la collection Pop, dans laquelle on trouvait surtout des héros DC Comics tels que Flash, Green Lantern, Aquaman, Atom, Shazam ou Captain Action. Sans doute moins repéré par le public de Lug, plus marvelophile, la collection Pop n'avait duré que quelques temps.
Ça a commencé assez tard. Au début, on faisait que du noir et blanc. Parce qu'on est passé à autre chose. On a surtout fait sur la demande du siège des presses de la cité, beaucoup d'adaptations de romans de fleuve noir, blanc, presse de la cité, etc. Pour adultes. Donc, en format digest, 164 pages, 224 pages, et on a un peu abandonné ce qui était couleur, mais on a continué quand même de faire des choses en couleur, hein. À la demande de DC Comics et de Marvel, qui n'aimaient pas trop nos publications noires et blancs. DC Comics, au départ, ça l'embêtait pas trop, puisque de toute façon, en France, on était sur des formats qui ne leur correspondaient pas. Et puis par la suite, ils ont tellement insisté qu'on en est venu à refaire purement et carrément leur format. Donc ils nous livraient directement les films et nous on refaisait un film, les films et un bromu en noir et blanc. On refaisait nous-mêmes le film noir et blanc, enfin noir, et on utilisait donc les trois autres films pour faire la quadrille.
Arrêtez Artima proposait une véritable avalanche de titres. Une vraie caverne d'Ali Baba, pratique pour découvrir de nombreux héros de comics, recalés en France par les autres éditeurs. Au point d'ailleurs qu'à une époque, Arrédi Artima était obligé de faire livrer les grossistes diffuseurs de presse, non pas par camion, mais par train entier. Mais ce foisonnement de titres posait aussi un problème. Les revues étaient parfois distribuées au petit bonheur la chance, selon des rythmes aléatoires. Une revue bimestrielle devenait trimestrielle, parfois l'inverse. On découvrait quelquefois par accident qu'on avait loupé un ou deux numéros d'un titre. Ce foisonnement fait aussi que certains se demandent quelle série fonctionnait le plus chez Arrédi.
Bon, alors, j'essaie de me souvenir. Les séries qui marchaient bien pour Marvel, c'était surtout Hulk et Conan le Barbare. Et pour DC Comics, c'était pas Batman et Superman parce qu'ils étaient édités ailleurs. Il n'y avait rien de spécial. C'est juste Comics. Il y avait Flash qui marchait bien, Green Lantern un petit peu. Et les séries humoristiques qu'on faisait passer dans Spook, sur Foxy.
Dès lors que l'on connaît les super-héros tête d'affiche de l'éditeur Arrédi, une autre question qui se pose est celle des tirages de ces nombreuses revues.
On devait tirer ça à peu près 60 000 exemplaires. Et on considérait que quand on avait vendu 50% en première vente, c'était bien. On faisait des recueils. Alors là, à l'époque où on était au Vargan Bêta, à l'atelier, il y avait quand même bien une quarantaine de personnes.
Arrédi Artima disparaîtra finalement dans la seconde moitié des années 80. Et sauf erreur, conserve à ce jour le record de longévité pour un éditeur régulier de comics en langue française. En effet, je vous parlais au début de ce podcast de La Sage, devenue plus tard La Sage Édition, qui a longtemps édité des comics, mais d'abord de manière irrégulière. De la même manière, les éditions Delcourt, lancées en 1986, c'est-à-dire pratiquement dans les dernières années d'Arrédi, éditent de longue date des comics en album, mais cette activité n'est devenue réellement régulière, intensive, seulement il y a une vingtaine d'années. Si on tient compte des premières traductions de DC dans les années 50, Arrédi Artima a traduit des comics très régulièrement pendant plus d'une trentaine d'années. Elle dépasse encore à ce jour, de peu, la longévité des éditions Luxemic dans ce domaine, ou encore celle de Panini Comics et d'Urban. Surtout, les choses étant ce qu'elles sont, éditeur VF de comics ayant déserté les kiosques, il semble qu'Arrédi Artima conservera encore longtemps le record de longévité pour un éditeur français vendant des comics en kiosque.
Oui, mais bon, quand on a décidé d'arrêter les formats Artima, on a carrément tout arrêté pour se lancer uniquement dans les IS. C'est une question de vente. Je crois que Artima, proprement dit, c'était 80% des séries dessinées et créées par des Français. C'était plus vraiment au goût du jour. L'époque était déjà partie sur Marvel, DC Comics, Charlton, etc.
Cependant, quelques années après la création de la collection Artima Superstar, mais bien avant la disparition d'Arrédi, Yves Catelouin va quitter pour la deuxième fois la société.
Parce que je suis resté jusqu'à 1980, juin 1980, et je suis parti m'associer avec quelqu'un à Lille pour créer une maison de publicité. Et 5 ans après, M. Kersbeek est venu me voir et m'a demandé, il allait devoir prendre sa retraite, il m'a demandé si ça ne m'intéresserait pas de revenir pour le remplacer. C'était en 85. Donc en 85, je suis revenu chez Arrédi et j'y suis resté jusqu'à 88. En 88, les Presses de la Cité avaient décidé de faire abandonner complètement tout ce qui était nouveau et de ne conserver que la fabrication des recueils. Moi, ça ne m'intéressait plus. Je suis reparti une dernière fois et pour toutes. Et je crois que 2-3 ans après, Arrédi a déposé le bilan. Et l'a vendu pour un franc symbolique aux éditions du Pierrot à Lyon.
Reste la question de savoir quels souvenirs notre invité conserve de cette époque.
Ah, je garde un bon souvenir parce que c'était quand même agréable. Bon, d'abord, j'ai toujours aimé la bande dessinée, donc c'était agréable. En plus, j'étais environné de dictionnaires, de littrés, c'était intéressant. Et en plus, là, ça peut vous paraître bizarre, mais l'odeur du papier, de l'encre, etc. J'aimais bien. Donc j'en garde un bon souvenir. D'ailleurs, je discute parfois avec Monique Kersbeek, la fille de Monique Kersbeek. Et je discute aussi. Bon, à un moment donné, quand on était encore rue du Faucon, un dessinateur de compléments qui s'appelait Renaud Deneau, un Belge qui avait fait ses études à Saint-Luc, et moi, on avait fait une série de bandes dessinées qui a fait sept histoires, le chiffre 7. Je lui téléphone de temps en temps. Bon, lui, il a continué à faire des albums successivement pour Dupuis, Casterman, etc. Maintenant, il est fait à titre individuel.
On se souviendra qu'Yves Cattelouin était à la base un dessinateur de bandes dessinées. Et on peut se demander pourquoi, alors, il n'a pas continué dans ce domaine après avoir quitté Arredi.
Bah écoutez, la bande dessinée, c'était bien, mais ça ne rapportait de l'argent, un peu comme dans la chanson, le show, etc. Donc, aux grandes vedettes. Au centre, ça ne rapportait pas grand-chose. Donc, j'avais besoin d'argent, j'étais marié. Et la publicité rapportait beaucoup plus. Pour vous donner une idée, dans mes premiers pas dans la publicité, quand j'ai fait des dessins pour la caisse d'épargne ou quoi, je ne savais pas faire les prix, parce que je ne me souviens plus des prix exacts de l'époque, mais si un dessin de bande dessinée rapportait à l'époque 10 francs, dans la publicité, ça rapportait 80 francs.
Au bout du compte, Arredi Artima reste la création d'Émile Kersbeek, aujourd'hui disparu, qui d'une simple société de calendriers en aura fait pendant de longues décennies un géant de l'édition de bandes dessinées populaires. Ça n'avait rien d'un mince exploit, et on peut se demander quel genre de personnage c'était.
Oh, monsieur Kersbeek dirigeait tout. Hein. Pour tout vous dire, quand il rentrait chez lui, il lisait tout ce qui était paru. Et je sais pas comment il faisait, mais moi, quand j'étais rédacteur, je relisais, comme les autres rédacteurs, ce qu'on appelait des dossiers, c'est-à-dire une publication avant qu'elle ne soit filmée, pour trouver les erreurs de toutes sortes. Je passais 4-5 heures de mon après-midi à tout lire. Lui, il feuilletait une page, il tombait juste sur une faute. Ou une erreur de flèche, une direction de flèche de ballon, une faute d'orthographe, une erreur de numérotation. Et il avait cette chance, si on peut dire. Il feuilletait la publication, il lisait pas tout, il feuilletait. Et il tombait pile sur un truc qu'il devait pas avoir, qu'il devait pas être. Mais il lisait vraiment tout.
Malgré sa taille, Artima, c'était aussi une société familiale, en un sens, puisqu'on y retrouvait tous les enfants du fondateur.
Bon, c'est-à-dire que son fils aîné, Jacques Kersbeek, a été en fonction à Bruxelles, enfin, dans une ville à côté de Bruxelles, dont m'échappe, où il s'occupait des ventes de recueils, de rééditions, etc., pour la Belgique. Un autre fils, qui s'appelait Claude, a épousé la fille de M. Toré à Barcelone, et donc est allé vivre là-bas, et c'est lui qui s'occupait de recruter les dessinateurs pour la création des adaptations de romans pour de la cité, pour, etc. Et le dernier fils, Michel Kersbeek, qui était le plus jeune, a travaillé un peu à tout. Il a été à un moment donné à l'atelier, à un moment donné au bureau. Quand j'ai quitté Arredit, il était un peu un homme à tout faire de bureau. Et Monique Kersbeek, qui a 20 ans de moins que ma femme, elle est née la même date, mais pas la même année, était arrivée à la comptabilité. Et c'est un peu à cause de Monique Kersbeek qu'on a périclité, parce qu'elle n'aimait pas du tout la bande dessinée, elle trouvait ça, genre pas ses mots. Et donc, elle a influencé son père, qui était fou d'elle, pour nous orienter vers des livres didactiques qu'on a achetés dans les foires aux Autrichiens, aux Allemands, aux Anglais. On s'est mis à produire des albums. Et tout ça, à l'époque, je me souviens qu'il y avait 800 millions d'anciens de francs dans la trésorerie d'Arredit. Mmh. Et on a acheté des voitures pour faire la publicité, on a pris des techniques aux commerciaux, etc. Et puis, toute la trésorerie a fondu. Et ce genre d'album didactique, c'était pas vraiment notre truc. Ça n'a pas très bien marché. Mmh. Donc, ça a été le début de la dégringolade. Moi, j'aimais bien Conan le Barbare, parce que je trouvais que c'était très bien dessiné. Et bon, j'aimais bien Batman et Spider-Man, même si c'était pas fait paru chez nous. Ah oui, pour voir un peu ce qui se faisait. Vous savez, comme dans tous les métiers, on s'inspire un peu des concurrents. Parfois, M. Karzuik nous appelait, le chef dessinateur et moi, en disant, en regardant la publication de chez Lug ou de chez M. Chapelle ou Imperia, il disait, oui, regardez, ça c'est bien, pourquoi nous on ne l'a pas fait? C'est ce qui continue encore à se faire dans toutes les maisons.
Voilà, il est temps de laisser tranquille Monsieur Cateloin, en le remerciant une nouvelle fois pour sa participation, d'autant plus que ce sont des événements qui remontent loin dans son passé. J'espère que cette tranche de vie vous aura intéressé, même s'il ne s'agit pas vraiment de discuter de qui est le plus fort entre les Avengers et la Justice League. Cela nous aura permis de revisiter une époque aujourd'hui révolue, quand les comics en étaient encore à s'implanter dans les kiosques français, réseau qu'ils ont aujourd'hui pratiquement abandonné. Avant de m'éclipser à mon tour, je vous rappelle qu'Aventure Fiction vit grâce à vos pourboires, que plus vous participez et plus cela me dégage du temps pour d'autres enquêtes supplémentaires. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode, et vous pouvez aussi me contacter via la page Tipeee du projet, où il m'arrive de poster quelques petits bonus. Merci pour votre écoute, à bientôt pour d'autres aventures, d'autres manières d'aborder l'histoire des comics, peut-être aussi avec d'autres témoins.
Bonne fin de journée.